Mesdames et messieurs et fidèles auditeurs, je vous convie à présent à suivre la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies avec Charles-Antoine Bambara, porte-parole AI de la MONUSCO.
Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence de presse des Nations Unies. Comme d'habitude, nous ouvrirons cette conférence de presse avec quelques informations sur les activités, sections et départements de la MONUSCO et ensuite, nous donnerons la parole à l'équipe pays avec notamment pour les volets développement Geneviève Delenoy et pour l'humanitaire Yvon Edemou. Et ensuite, nous donnerons la parole au Major Kékéré, porte-parole militaire par intérim, qui nous donnera quelques éléments d'information sur la situation militaire dans le pays. Et puis depuis Goma, nous devrons avoir d'un moment à l'autre d'ailleurs comme invité Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies RDC, et le général Bayou, commandant adjoint de la force de la MONUSCO en RDC. Ils pourront donc intervenir au cours de cette conférence de presse. Voilà donc pour les titres de cette conférence de presse que nous ouvrons tout de suite avec les activités des différentes composantes de la MONUSCO. Division de l'information publique, la journée des Nations Unies sera célébrée ce vendredi 24 octobre. À cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a adressé un message au monde entier, un message dans lequel il invite les gouvernements et les particuliers à faire cause commune pour le bien de tous et en ce moment décisif, à s'engager en particulier afin de rendre les marginalisés et les vulnérables maîtres de leur avenir. Pour cette année, en République démocratique du Congo, la mission des Nations Unies pour la stabilisation RDC MONUSCO et l'équipe pays des Nations Unies RDC organisent conjointement diverses activités à travers le pays. À Kinshasa notamment, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies RDC et coordonnateur humanitaire du système des Nations Unies, M. Moustapha Sounoare, animera une conférence de presse ce vendredi 24 octobre à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC. M. Soumaré présidera ensuite en fin de journée une cérémonie officielle qui sera suivie d'une soirée culturelle au Kiulu, dans la commune de la Gombe, en présence des membres du gouvernement, du corps diplomatique et des leaders de la société civile congolaise. Vous aurez plus de détails dans une note d'information qui vous sera distribuée à la fin de cette conférence de presse, d'ailleurs à laquelle vous êtes cordialement invité. Suite à la remise du prix Sakharov hier à Denis Mukwege, le fondateur de l'hôpital Panzi de Bukavu, Martin Kobler, chef de la MONUSCO, a rendu hommage au docteur Mukwege pour son combat contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Un communiqué vous sera remis à la fin de cette conférence de presse. Rencontre à Goma de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs Saïd Djinit avec la société civile. En visite depuis hier à Goma, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs Saïd Djinit a tenu une réunion à la MONUSCO avec les représentants de la société civile du Nord Kivu. Au cours de cette rencontre, M. Djinit a échangé avec les participants sur sa vision dans la mise en œuvre des accords de paix d'Addis Abeba en RDC et dans la région en général, et assurer les participants de son engagement personnel sur la question de la lutte contre la violence faite aux femmes dans la région, en mettant l'accent sur les ressources naturelles et soutien à la société civile. Il a également dit que son bureau vise à renforcer les mécanismes régionaux tels que la CIRGL. Section protection de l'enfance, au cours de la semaine du 13 au 17 octobre, la section protection de l'enfance de la MONUSCO a documenté 67 cas d'enfants qui ont été victimes directes de violences liées au conflit. 30 enfants associés au groupe armé se sont échappés, 11 ont été tués, 6 mutilés, 11 filles ont été violées, un garçon a été enlevé et un autre libéré de détention. Cela représente une augmentation par rapport aux semaines précédentes, durant lesquelles en moyenne 20 violations par semaine avaient été documentées. Une des raisons de cette situation est la recrudescence de la férocité des attaques des groupes armés dans certains territoires, notamment dans le Nord Kivu et la province orientale. Durant les récents massacres qui ont eu lieu dans le territoire de Beni, des enfants ont été délibérément et largement ciblés. Au moins 32% des victimes étaient des enfants, dont certains étaient âgés de 6 mois. Pendant les incursions menées par les éléments présumés du groupe armé ADF entre le 5 et le 17 octobre dans le territoire de Beni, 12 garçons et 7 filles âgées de 6 mois à 17 ans ont été brutalement tués. Certains blessés de Beni ont été évacués vers Goma le 18 octobre par un vol médicalisé de la MONUSCO pour des soins appropriés. Depuis le 13 octobre, toutes les activités éducatives dans la province, dans le territoire de Beni à Oicha précisément ont été arrêtées, suite donc aux incursions présumées des éléments de l'ADF. Voilà tout pour les informations des différentes composantes de la MONUSCO. Nous passons tout de suite la parole à l'équipe pays. Et tout d'abord, Geneviève Delunoy. Geneviève, bonjour.
Bonjour Charles.
Beaucoup d'informations aujourd'hui, cette semaine en tout cas, sur le volet développement. Et vous commencez par
La Cour pénale internationale. Hier, mardi 20 octobre 2014, dans l'affaire Le procureur contre Bemba, Kilolo et consorts, le juge de la chambre préliminaire 2 de la Cour pénale internationale a ordonné la mise en liberté provisoire d'Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Magenda Kabongo, Fidèle Babala Ouandou et Narcisse Arido. Aujourd'hui, le procureur a fait appel de la décision de la chambre préliminaire 2, ordonnant la mise en liberté des quatre suspects, et demande à la chambre d'appel que les suspects ne soient pas libérés jusqu'à ce que celle-ci rende son jugement sur cet appel. Le procureur demande également à la chambre préliminaire 2 de sursoir à l'exécution de la décision de mise en liberté à titre provisoire jusqu'à ce que la chambre d'appel ait décidé si l'effet suspensif est accordé. Il revient désormais aux chambres saisies de statuer sur ces requêtes en temps voulu. Pour rappel, les quatre suspects étaient détenus au quartier pénitentiaire de la CPI aux Pays-Bas depuis le 25 novembre 2013. Ils sont suspectés d'atteinte présumée à l'administration de la justice dans le contexte de l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo. La décision de la chambre préliminaire 2 de libération provisoire des suspects ne concerne pas Jean-Pierre Bemba, le cinquième suspect dans cette affaire, puisqu'une autre procédure est en cours en son encontre devant la Cour, le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo. UNICEF à présent. Les discussions entamées il y a environ un mois entre le gouvernement congolais, l'UNICEF et les autres partenaires techniques et financiers sur le financement public des secteurs sociaux se sont poursuivies ce mardi 21 octobre. Malgré les progrès réalisés dans la mobilisation des ressources de l'État, on constate que les enfants n'en bénéficient pas de manière équitable. Par ailleurs, les investissements dans les secteurs tels que la santé et l'éducation restent faibles. Les discussions sur le sujet ont pour but de susciter le dialogue entre les différents acteurs. La troisième réunion sur le même thème aura lieu à Lubumbashi, courant novembre 2014. Et je termine par une information concernant le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD. Hier, le PNUD a remis officiellement et procédé à l'inauguration des salles d'audience foraines de la prison militaire de Ndolo. Ce projet a été réalisé grâce au financement et à la supervision du PNUD en partenariat avec l'administration pénitentiaire militaire et avec l'appui technique de la section d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. Les travaux s'élèvent à environ 50 000 dollars. À la prison militaire de Ndolo, par manque d'infrastructures adéquates, les chambres foraines se réunissaient sous des tentes dressées dans la cour principale et étaient exposées aux intempéries. La construction et l'équipement en mobilier de bureaux de ces deux salles d'audience permettra désormais la tenue des audiences foraines dans des conditions plus confortables, tant pour les acteurs et personnels judiciaires, qu'ils soient juges, avocats, greffiers, ainsi que pour les justiciables, ce qui est un facteur déterminant de la qualité de la justice qui est rendue. Depuis 2008, le PNUD appuie le gouvernement congolais dans la mise en œuvre de la réforme de la justice, notamment via l'appui au Conseil supérieur de la magistrature, l'accès à la justice, la lutte contre l'impunité des violences sexuelles et basées sur le genre, ainsi que l'administration pénitentiaire. Pour ces trois informations, un communiqué de presse respectif vous attend à la fin de cette conférence. Merci.
Merci à Geneviève Delunoy pour ces informations sur le volet développement ici en République démocratique du Congo. Nous passons tout de suite la parole à Yvan Edemou pour des informations sur le volet humanitaire. Bonjour Yvan.
Bonjour Charles, bonjour chers auditeurs. Nous allons rester à Goma, actualité oblige. Et réitérer en fait la consternation de Ocha et de toute la communauté humanitaire sur la spirale de violence qui a lieu dans le territoire de Beni et ses environs depuis plusieurs jours. Jeudi dernier, nous avons sorti un communiqué suite à l'attaque du 15 octobre à Beni. Et à peine l'encre avait séché sur ce communiqué qu'il y avait eu que Ergenti venait d'être théâtre aussi d'une attaque violente. Ainsi, depuis le mois d'octobre, on compte près d'une quarantaine de morts dans ces différentes attaques, plusieurs personnes blessées. Et évidemment, au-delà du bilan macabre de ces agressions, il est évidemment important de dénoncer et espérer que les auteurs de ces crimes puissent répondre de leurs actes devant les tribunaux compétents. C'est une situation assez précaire, assez délétère, assez insoutenable pour des milliers de personnes dont les vies sont en danger. Pour l'heure, nous ne pouvons qu'estimer à plusieurs milliers de personnes le nombre de personnes qui ont fui la zone de Beni et ses environs pour trouver refuge ailleurs. Par exemple, on estime à près de 50% le nombre de personnes qui auraient quitté Eringeti, qui comptait environ 13 000 habitants avant l'attaque du 17 octobre. On estime aussi à plusieurs milliers ceux qui auraient parcouru des heures et des heures pour traverser et rejoindre la province orientale. La zone et la situation restent assez volatiles et les équipes n'ont pas encore eu le temps de faire des évaluations un peu plus poussées.
Voilà, merci donc à Yvan Idoumou pour ce survol de l'actualité humanitaire cette semaine à RDC. Tout de suite, la parole est au commandant Kékéré. Commandant, bonjour.
Bonjour Charles.
Vous nous faites un survol de l'actualité militaire ces derniers jours en RDC.
Bon, par rapport à la situation militaire ces derniers jours en RDC, faut noter que l'environnement sécuritaire dans les provinces situées à l'ouest de la République démocratique du Congo a été jugé calme mais imprévisible durant la semaine écoulée. En province orientale, la force de la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo ont multiplié les patrouilles sur les axes principaux situés dans les districts de Haut et de Bas-Ouélé, visant à neutraliser les éléments résiduels de l'armée de résistance du Seigneur LRA. En Ituri, les troupes de l'armée congolaise poursuivent avec le soutien de la force de la MONUSCO leurs opérations visant à mettre un terme aux exactions et violations des droits de l'homme commises par les miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI, contre les populations civiles vivant dans les localités situées au sud du territoire d'Irumu. En effet, pendant la période sous examen, des kidnappings, viols, pillages et tortures ont été perpétrés par les éléments du FRPI dans les localités de Zitono, Kamumu, Kilongi et Arava. Depuis le mois de janvier 2013, le chef rebelle Kouba Matata et ses miliciens du FRPI commettent des meurtres, viols et pillages dans le district d'Ituri, principalement dans les localités situées au sud du territoire d'Irumu. Ainsi, le 14 octobre 2014, trois fosses communes contenant au total 31 corps ont été découvertes au village Niakabila, situé à 35 km au sud de Bunia. Selon des sources concordantes établies dans la région, ces individus ont été enfermés dans une maison par les éléments du FRPI aux ordres de Kouba Matata, puis brûlés vifs avant d'être enterrés dans trois fosses communes en 2012. Au Nord Kivu, la situation sécuritaire est tendue, voire préoccupante, suite aux récentes exactions perpétrées par les rebelles de l'Alliance des Forces démocratiques ADF contre les populations civiles vivant dans le territoire de Beni. Toutefois, elle reste sous le contrôle des forces onusiennes et congolaises. Dans le territoire de Beni, les éléments de l'ADF ont au cours de trois attaques majeures commis des atrocités, tué et blessé des individus dans les localités de Ngadi, Kadou et Erengeti. En effet, dans la nuit du 15 octobre 2014, 14 éléments armés supposés appartenir à l'ADF ont successivement fait incursion dans les localités de Ngadi, 8 km au nord de Beni et Kadou, 6 km de Ngadi et 10 km de Beni, tuant 12 individus et blessant 6 au cours de la première attaque, puis 14 individus horriblement massacrés lors de la deuxième offensive, parmi lesquels on compte 7 hommes et 7 femmes. 4 autres corps ont été retrouvés plus tard, portant le nombre d'individus tués dans les deux localités précitées à 30. Le 17 octobre, un autre groupe d'éléments supposés à toujours appartenir à l'ADF a lancé une troisième attaque dans la localité d'Erengeti, tuant 24 individus et faisant des blessés parmi les civils. Sitôt informé de l'attaque lancée par les rebelles ougandais à Ngadi, le bataillon tanzanien de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO a promptement déployé des troupes d'intervention dans la région dans le but de dominer le terrain, contrer une nouvelle attaque contre les populations. Le 19 octobre 2014, une réunion d'urgence a été tenue par la MONUSCO, les FADC et les autorités locales pour améliorer la situation sécuritaire dans la région de Beni et rassurer les populations civiles. Des opérations vigoureuses sont également menées par l'armée gouvernementale, soutenues par la force de la MONUSCO contre les rebelles ADF. Les meurtres perpétrés par les rebelles de l'ADF dans la région de Beni et à Erengeti ont provoqué des manifestations de colère des habitants de Beni et de villes environnantes. Notons par ailleurs que le 20 octobre 2014, un aéronef sans pilote de la MONUSCO s'est écrasé 5 km au nord de l'aéroport de Goma dans une zone inhabitée peu de temps après son décollage. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de cet accident. Du 15 octobre à ce jour, 22 éléments se sont rendus aux troupes onusiennes congolaises et au bureau de DD3R déployés à Walikale, Masisi, Niamilima, Penga et Kirumba. Il s'agit d'un élément de groupe Maïmaï Tcheka, Nduma Défense du Congo, 5 de divers groupes Maïmaï, 14 du groupe Maïmaï Niatura, 1 de l'Alliance Patriotique pour un Congo Libre et Souverain APCLS et 1 des Forces démocratiques de libération du Rwanda. Au Sud Kivu, l'environnement sécuritaire demeure sous le contrôle des forces onusiennes et congolaises. L'armée congolaise, soutenue par la force de la MONUSCO, a poursuivi ses opérations contre les groupes armés actifs dans cette province, principalement les rebelles du Front National de Libération, FNL. En effet, les 18 et 19 octobre 2014, deux rebelles du FNL voulant s'infiltrer au Congo et trois autres actifs au village Kaberagoulé ont été tués par les troupes de l'armée gouvernementale au cours d'opérations menées à Ndouda, 18 km est de Sangé, et à Kabaregoulé, 12 km sud-est de Sangé. Le climat sécuritaire a été jugé stable au Katanga pendant la période sous examen, mais reste volatile et imprévisible. Quant au secteur 2, l'environnement sécuritaire a été jugé paisible. Enfin, pour les statistiques de nos patrouilles, la force de la MONUSCO a mené 2371 patrouilles armées, dont 715 nocturnes et fourni 58 escortes pendant la période. Je vous remercie.
Merci au commandant Kékéré pour ces informations claires et précises et même détaillées sur la situation militaire ces 7 derniers jours en RDC. Avant de passer donc au volet questions et réponses, je vais retourner tout de suite à Goma où je vous annonçais en début de conférence de presse nos invités. Et nous avons un invité surprise en plus du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, monsieur Martin Kobler. Nous avons le commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général Bayou. Mais je laisse le soin à monsieur Martin Kobler de présenter cet autre invité surprise. Monsieur Kobler, la parole est à vous.
Voilà, merci bien Charles. Chères auditrices, auditeurs de Radio Kapi, chers membres du corps de la presse à Kinshasa et ici à Goma, si nombreux. Merci bien. Comme Charles a dit, je suis accompagné par deux amis. Ce sont deux autres envoyés spéciaux pour la région de Grand Lac. Je suis accompagné de Saïd Jinit, qui est l'envoyé spécial du secrétaire général, qui remplace Mary Robinson, avec qui nous avons déjà, dans les premières semaines, alors coordonné beaucoup. Et c'est une vraie coopération très, très fructueuse. Et un autre ami de nous, c'est l'ambassadeur Boubacar Diarra de l'Union africaine, qui vous connaissez parce qu'il était ici dans cette conférence de presse auparavant. Avant de donner la parole à mes amis à droite et à gauche, laissez-moi commencer par féliciter le docteur Mukwege, qui a reçu le prix de Sakharov, et c'est vraiment un achèvement. Et voilà, merci bien. Parce que la lutte contre les violences sexuelles, c'est quelque chose qui est très important. Il a contribué, une contribution inestimable pour cette lutte contre la violence sexuelle. Docteur Mukwege, du profond de notre cœur ici, aussi de journalistes ici, dans notre collectivité, nos meilleurs remerciements. Nous sommes rentrés maintenant de Luanda et c'est aussi une chose que nous voulons vous informer. Mais tout d'abord, je voudrais bien donner la parole à Saïd Jinit. Merci bien pour d'être ici. C'est la première visite officielle dans sa fonction ici à Goma. Et vous voyez, il est venu très vite à Goma parce que c'est le centre de notre gravité.
Merci beaucoup, Martin. Et encore une fois, merci de me donner cette occasion, cette plateforme pour m'exprimer à l'occasion de cette première visite à Goma. dans quelques jours, peut-être même demain, dès demain, nous rendrons à New York avec mon ami Martin Kobler pour prendre la parole devant le Conseil de sécurité. Et j'ai pensé qu'il était de mon devoir de venir ici à Goma avant d'aller à New York pour rencontrer mes collègues de la MONUSCO, rencontrer les autorités locales, les populations, les personnes déplacées et réfugiées, pour chercher l'inspiration qui est nécessaire pour dans l'exercice de mon mandat, et je saisis l'occasion pour dire tout l'engagement qui m'anime pour continuer le travail qui a été fait par Mme Mary Robinson et accompagner la région et la RDC dans leur effort visant à stabiliser la région et à créer les conditions pour un développement durable pour tous. À cette occasion, j'ai trois messages à donner. Le premier message est à l'endroit du gouvernement, du peuple et des populations de cette région, le gouvernement du Congo, de son peuple, et des autorités locales et des populations de cette région du Nord, qui vous, pour le dire, transmettre un message de salutation fraternelle et de solidarité avec cette région et ce peuple qui a beaucoup souffert au cours des années passées, et leur dire la détermination des Nations Unies, à travers la MONUSCO certainement, mais à travers toutes les entités, pour les aider dans leur œuvre visant à trouver des solutions durables aux problèmes de sécurité, de stabilité de la région, mais aussi dans toute la région des Grands Lacs. Mon deuxième message est à l'endroit du gouvernement, de la RDC, de ses forces armées et de la MONUSCO, pour dire tous nos encouragements au gouvernement et à ses forces armées, avec le soutien de la MONUSCO et sans doute avec la coopération des autorités et des populations de cette région, pour poursuivre avec détermination, avec vigueur, leur mission et leur travail en vue de créer les conditions de sécurité dans cette région et de débarrasser cette région de tous les groupes armés qui créent l'insécurité, la violence, provoquent les déplacements de personnes et entretiennent la méfiance dans la région. À cet égard, je me réjouis de la détermination qui anime la région en vue de se débarrasser complètement de des problèmes des forces armées qui continuent de perpétuer l'insécurité dans la région. Et comme le représentant spécial venait de faire allusion tout à l'heure, nous revenons d'une réunion à Luanda ministérielle entre la SADC et la conférence de la région des Grands Lacs, et je me réjouis de la détermination qui anime les leaders de la région pour créer les conditions pour se débarrasser de façon définitive des groupes armés et des forces négatives dans la région. Et nous nous réjouissons en particulier de la décision réitérée par la réunion de Luanda, qui a redit sa détermination à utiliser l'option militaire contre les forces négatives, et en particulier les FDLR, contre ceux qui ne profiteraient pas des conditions qui ont été mises en place pour le désarmement volontaire, et en dépit de toutes les conditions qui ont été mises en place pour les accueillir de façon sécurisée dans les camps. Le troisième message, c'est à l'endroit des pays de la région. Nous sommes ici à Goma, qui est l'épicentre de la crise régionale, et en même temps, l'épicentre du développement régional. J'ai rencontré ce matin le secrétaire exécutif de la CEPGL, et je lance un appel ici à partir de Goma, aux leaders de la région, aux pays de la région, pour qu'ils s'engagent résolument dans le cadre de l'intégration et pour mettre en place des projets de développement pour le grand bien des populations, pour régler les problèmes qui sont à la source de l'instabilité de la sous-région. Et je voudrais réitérer le soutien déterminé des Nations Unies pour les accompagner dans cette œuvre. Merci.
Voilà, merci bien. Oui, merci. Je pense que c'est toujours pour nous un plaisir de vous rencontrer, en ce que la presse est considérée par nous comme un élément important qui doit contribuer à l'appropriation de l'accord cadre paix, sécurité et coopération. Comme Jeanette Kobler l'ont dit, nous avons voulu, à la suite de ces événements douloureux que la ville de Béni a connus, venir ici, M. Jeanette et moi-même, au nom des Nations Unies, au nom de l'Union africaine, marquer notre solidarité avec les populations qui ont été extrêmement traumatisées par les événements du 15 octobre. Et c'est pour cela, effectivement, qu'après la réunion ministérielle de Luanda, qui a eu en son centre la question du désarmement des FDLR, nous avons pensé, effectivement, faire un crochet à Goma, justement pour marquer, comme je l'ai dit, notre solidarité et notre engagement auprès de la MONUSCO pour ce travail d'éradication des forces négatives. Vous le savez, les résolutions 2098 et 2147 du Conseil de sécurité sont claires à ce sujet. Les FDLR sont une force négative. Vous le savez aussi, après le sommet du 25 mars 2014 à Luanda, il y a eu une réunion ministérielle qui a accordé un délai de 6 mois aux FDLR pour désarmer volontairement ou alors, en cas contraire, les groupes armés, ce groupe armé va subir effectivement la force militaire. Nous sommes dans cette période de time frame donné au FDLR. Mais ce délai finit le 2 janvier. Là, les sommets des chefs d'État qui se sont tenus après cette réunion ministérielle ont confirmé ce délai, espérant effectivement que les FDLR comprendraient le signal qui leur a été fait. Malheureusement, Kobler peut l'attester, bon, sur le terrain, il n'y a pas de désarmement effectif. Et donc, je pense qu'il était naturel que les régions CIRGL et SADEC se réunissent, conformément aux décisions arrêtées, de faire une évaluation à mi-parcours. Et cette évaluation à mi-parcours a eu lieu avant-hier. Nous avons constaté que, sur le terrain, il n'y a pas de désarmement. Et donc, notre détermination à éradiquer ce groupe armé à partir du 2 janvier, à préparer des plans d'opération militaire pour que ce groupe armé soit complètement neutralisé, est établie sans aucune ambiguïté. Et c'est un peu, je crois, ce que je souhaitais dire après M. Saïd Guinit. Mais je pense aussi qu'il était important, en tant qu'Union africaine, de venir avec les Nations Unies, après la conférence que nous avons eue avec la CIRGL et la SADEC, nos 4 organisations étant les organisations garantes de l'accord cadre paix, sécurité et coopération, pour que, sur le terrain, nous voyons effectivement cette solidarité, cette détermination de l'ensemble de la communauté internationale à mettre en œuvre l'accord cadre qui, effectivement, est le creuset de la volonté politique des 14 chefs d'État, effectivement, d'aboutir à la paix, à la sécurité et au développement. D'où, effectivement, ces réunions que nous avons eues ce matin avec le secrétaire exécutif de la CEPGL pour dire qu'au-delà des questions de paix et de sécurité, il faut nécessairement que les femmes, que les jeunes qui sont les premières victimes de ces fléaux-là puissent bénéficier des dividendes de la paix. Et je pense que des stratégies sont en cours pour que l'accord cadre soit effectivement une vraie réalité pour les jeunes qui, certainement ayant à leur disposition des métiers, vont se détourner de l'usage des armes. Mais nous savons aussi tous les traumatismes que les femmes ont connus par rapport aux violences sexuelles. Je pense que des stratégies fortes sont en discussion à notre niveau pour que plus jamais il n'y ait effectivement une seule femme au niveau de la province, mais au niveau du pays, qui soit victime de violences sexuelles. Je vous remercie.
Voilà, merci bien. Et vous voyez, alors je suis très heureux d'avoir un soutien, un tel soutien fort des autres envoyés spéciaux ici, parce que parfois ici, si nous travaillons contre les groupes armés, il faut avoir ce soutien politique, et vous voyez ici vraiment une vue consolidée, et c'est un encouragement. Laissez-moi ajouter, avant d'entrer dans la session questions-réponses, un ou deux autres points. Nous sommes très préoccupés, comme le porte-parole militaire a dit, sur la situation avec la situation à Beni maintenant. J'étais avec le commandant adjoint de la force et le gouverneur la semaine dernière à Beni, le jour des funérailles des 29 victimes. Et nous avons condamné fortement alors les actions terroristes de ceux qui ont commis ces crimes horribles. La situation à Beni maintenant est pas facile. On a des réactions contre la MONUSCO. On a des réactions contre la MONUSCO. Et maintenant, la situation est calme. C'est grâce à l'intervention des autorités locales. Nous venons d'avoir parlé. Nous venons d'avoir parlé avec le gouverneur aussi tout à l'heure, mais c'est aussi grâce à l'intervention des FRDC qui protègent nos bureaux à Beni. Mais laissez-moi dire, et nous avons eu cette situation aussi à Goma il y a un an, je me rappelle très bien, et vous vous rappelez, vous journalistes ici à Goma aussi, ça vaut pas la peine alors de prendre la MONUSCO comme bouc émissaire pour ce qui ne marche pas. Et nous devons avoir nos forces, mais aussi nos civils, la mobilité de vous protéger. Si vous nous attaquez, alors les groupes de jeunes à Beni, c'est dirigé à vous. Alors, vous nous empêchez de faire notre boulot ici. Nous devons avoir votre soutien et pas vos attaques des pierres. C'est mon message, c'était mon message aussi à la société civile la semaine dernière. Je le répète maintenant. Nous voulons vous soutenir. C'est très important que nous avons notre force, nos civils, la mobilité à Beni. Alors, de mouvoir, d'avoir des actions conjointes. Je l'ai exprimé très très clairement, alors que ce que nous faisons, et je sais, nous avons perdu une partie de la confiance, il faut l'admettre. On doit regagner la confiance avec la population par des actions conjointes entre les FRDC et la MONUSCO. On est en train de l'organiser et je demande les jeunes qui sont contre nous, à Beni, vraiment de nous aider, de nous donner les informations quoi faire et de nous garantir aussi la mobilité que nous avons besoin. Vous, à Goma, vous le comprenez très bien parce que nous avons eu la même situation il y a un an. Deuxième point, malheureusement, on avait la déclaration du gouvernement d'expulsion Scott Campbell, notre chef du bureau des droits de l'homme, le vendredi dernier, de demander la MONUSCO, le secrétaire général, qu'il quitte le pays en 48 heures. J'ai immédiatement déploré cette décision parce qu'il a fait son travail. Avec le rapport de l'ICOFI, cette note verbale est arrivée deux jours après que nous avons, où Scott Campbell a présenté dans cette même conférence de presse hebdomadaire le rapport de l'ICOFI. Maintenant, j'ai demandé au gouvernement, j'ai parlé aussi avec les autorités, de réviser cette décision. Nous avons aussi le soutien des États membres. Ici, vous avez vu les déclarations aussi de presse de l'Union européenne. Mais laissez-moi dire, nous avons eu un soutien très très fort du secrétaire général des Nations Unies personnellement. Je crois que vous avez le texte de sa déclaration, mais pour ceux qui ne l'ont pas, je voudrais bien lire cette déclaration au nom du secrétaire général. Le secrétaire général condamne la décision du gouvernement de la République démocratique du Congo d'expulser M. Scott Campbell, directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Il est profondément préoccupé par les menaces visant d'autres employés du bureau conjoint liés à leurs fonctions officielles. Le secrétaire général rappelle qu'au fil des ans, le peuple congolais a souffert de graves violations des droits de l'homme documentées par le bureau conjoint dans le souci de promouvoir et protéger leurs droits tout en soutenant le système judiciaire dans sa lutte contre l'impunité. Le respect des droits de l'homme est absolument essentiel pour la paix durable et pour la stabilité en RDC. Le bureau conjoint de l'ensemble et l'ensemble de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo était mandaté par le Conseil de sécurité d'aider le gouvernement de la RDC et son peuple à cette fin. En entravant le travail de promotion et de protection des droits de l'homme des Nations Unies, le gouvernement a failli à ses obligations en la matière. Cela ne peut que nuire au progrès du pays. En ligne avec l'initiative, et c'est l'initiative du secrétaire général des Nations Unies personnel, l'initiative « Les droits de l'homme avant tout ». Les droits de l'homme avant tout, le secrétaire général rappelle que le personnel des Nations Unies ne doit être ni menacé, ni sanctionné pour avoir fait son travail qui repose sur la Charte des Nations Unies et, dans ce cas particulier, le mandat du Conseil de sécurité. Le secrétaire général exprime exprime pleine confiance en M. Campbell. Il exhorte le gouvernement de la RDC à revoir sa position sur son expulsion et à prendre des mesures urgentes face aux menaces visant d'autres membres du personnel des Nations Unies. Il encourage le Conseil de sécurité à examiner les implications d'un tel traitement du personnel onusien sur son travail et ses objectifs et à envisager d'éventuelles actions. Je n'ai rien à ajouter. Ici, c'est une déclaration assez forte, mais laissez-moi ajouter une chose. Nous avons une coopération. Une chose. Oui, je sais cette phrase. Je connais les réactions. Mais nous avons une bonne coopération avec le gouvernement. Le travail, le boulot des droits de l'homme, c'est discret et c'est public en même temps. On a par exemple un rapport mensuel qu'on discute confidentiellement avec les FRDC, avec la PNC sur les violations de droits de l'homme. Vous ne le savez pas. Mais parfois, nous écrivons ces rapports. Et cet rapport était sur les COFI. C'est pour la bonne gouvernance. Ici, nous sommes tous ensemble aussi pour suivre l'accord d'Addis Abeba et le mécanisme de suivi national qui dit c'est important de mettre en œuvre la bonne gouvernance. Le comportement des agences de sécurité, c'est bonne gouvernance. Et ça mène à la stabilité, pas à la déstabilisation. Nous sommes MONUSCO. Le S est pour la stabilisation et nous sommes convaincus que la bonne gouvernance mène à la stabilisation et nous voudrions bien continuer notre bonne coopération avec le gouvernement. Aussi, avec les pistes confidentielles, avec les FRDC, avec le ministre de l'Intérieur, et que ça n'empêche pas notre bonne coopération ici, mais... Le secrétaire général a demandé au gouvernement de réviser la liste.